La quête de la vie bonne.
La quête de la vie bonne.
Une recherche en Cévennes sur le Cosmégen et sur le Mont Lozère.
Mad. Une collecte de récits de vie.
Pour comprendre ce qui contribue un peu,
beaucoup,
à la folie.
À votre quête de vie bonne.
Du 21 au 24 mai,
à Florac et aux alentours,
Mad.
Des rencontres,
des ateliers,
des discussions.
Et le mercredi à partir de 14h,
un plateau exceptionnel.
Sur Radio Bartas, 107 FM.
On vient d'entendre Marine de Mémoire pour Demain, un collectif d'intérêt qui mène des recherches sur le territoire. Et on avait envie de mettre en perspective ce témoignage avec cette recherche sur la quête de la vie bonne en Sud-Lozère. On vient de quitter Monique, Roxane et Genauto de l'équipe de la recherche. Pardon, non, on vient de quitter Roxane, Magali et Genauto, qu'on remercie. Et on retrouve Isabelle Guérin et Blandine Destremo qu'on a présenté tout à l'heure, et Monique Commandré, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nîmes et directrice de l'antenne universitaire de Mende. Bonjour Monique.
Bonjour, merci Radio Bartas pour cette invitation.
Et voilà.
On vient d'écouter Marine, hein, et ce témoignage, il nous a paru intéressant. Parce qu'il donne des petits exemples assez concrets d'impact qu'une recherche peut avoir sur un territoire, notamment ici vis-à-vis des personnes âgées, donc dans la manière dont ça peut changer la perception qu'on a d'eux, valoriser leur récit, créer du lien entre des personnes qui se côtoient pas forcément dans la vie quotidienne. Est-ce que ça fait écho à des envies que vous avez pour la recherche que vous menez et pour une potentielle suite? On peut commencer peut-être par Isabelle.
Eh bien, merci encore pour cette opportunité et merci de nous avoir fait partager ce moment. C'était vraiment passionnant, très, très instructif. On voit comment une recherche citoyenne se met au service d'une certaine forme d'émancipation, je dirais. Hein. Émancipation au sens de valoriser des parcours, des personnes. C'est tout à fait passionnant. Alors, à notre niveau, peut-être deux, trois choses. La première, gardons la tête froide et restons modestes. Moi, je fais partie de ces chercheurs qui s'interrogent en permanence sur la plus-value de leur recherche, en étant convaincus que la recherche est utile, sinon je ne ferais pas ce métier, mais en étant très précautionneux, précautionneuse sur ce que ça peut apporter. Et je pense qu'il y a, je dirais, différents apports possibles, différentes échelles, différentes temporalités. Donc là, on avait un exemple vraiment d'une recherche qui part des habitants, qui est pour les habitants, qui est faite par les habitants. Vous avez compris qu'on est dans une démarche un peu différente, très institutionnelle. On est tous et toutes dans des postes académiques. Et si on poursuit cette recherche, je n'ai aucune idée de ce qu'elle apportera au territoire. Je le dis très clairement, restons modestes, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépendra de la manière dont on arrivera à co-construire avec un certain nombre de personnes, d'organisations locales. Par contre, je reste absolument convaincue, et là je prends moins de risques sur les apports possibles, sur le fait que, moi par rapport aux questions que je travaille depuis un certain nombre d'années, on est quand même face à un territoire qui est porteur d'autres imaginaires et d'autres modèles. Et il me semble que les chercheurs, ils ont une responsabilité quand même centrale. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais je le redis, à la fois dans le fait d'avoir une pensée critique, de dénonciation. On est dans un monde réactionnaire, autoritaire, voire fascisant. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ces mots-là, hein, avec des inégalités abyssales qui rejoignent les inégalités qu'on connaissait au début du siècle dernier, qui nourrissent des tendances d'extrême droite en particulier. On sait à travers l'histoire que les inégalités matérielles mènent à des crises, dont on connaît tous les ravages par le passé, et là on y est. Et donc face à ça, les chercheurs, ils ont aussi la responsabilité de décortiquer ces mécanismes, mais aussi de repérer des alternatives. Et on est sur un territoire où il y a toutes sortes d'alternatives, sans les romancer, sans avoir une vision naïve et romantique. Et c'est aussi la recherche sert à ça, et je crois que on a fait ça rapidement, mais tous les propos qu'on a eus sur la manière dont, oui, il y a une vie bonne, mais pas pour tout le monde. Oui, il y a une vie bonne, mais qui suppose un certain nombre de conditions, qui suppose notamment un certain nombre de mécanismes de type de relevant de la redistribution publique. Donc, sans avoir une vision romantique ni naïve, notre responsabilité, c'est de mettre en évidence la possibilité d'autres modèles économiques. Et là, on est sur un territoire qui se prête particulièrement à ça. Et sans avoir la... Je ne sais pas ce qu'on pourra apporter sur le territoire, mais ce qui est certain, c'est que de porter au reste du monde ce qui se passe sur un territoire comme celui-là peut participer modestement, restons modestes, à la construction ou au renforcement d'imaginaires alternatifs dont on a cruellement besoin pour penser le monde de demain. Peut-être un mot de plus. Tout à l'heure, je parlais de mon histoire d'iceberg. Voilà, j'y reviens. C'est un peu une obsession chez moi. Mais avec l'idée qu'on pense l'économie par le marché. Hein, l'économie, la création de valeur économique, ce serait le marché. On se trompe royalement. Le marché n'existe pas sans de la redistribution publique. Le marché n'existe pas sans ce que certains appellent de la réciprocité. On s'entraide. Il y a tout un tas de choses qui circulent en dehors du marché. Tous ceux qui vivent sur ce territoire le savent très bien. Ça prend plein de formes différentes. Des journées chinoises, je te prête du matériel, tu me prêtes du matériel, etc. La particularité du monde actuel et son drame, c'est que le marché subordonne le reste. Hein, la richesse, les empires français, que ce soit dans le secteur de l'automobile, des médias, du luxe, n'existeraient pas sans la redistribution publique. Les crédits recherche impôts, des exonérations fiscales de toutes sortes. Hein, on sait que les riches ne payent très peu d'impôts ici, en France. Et donc la particularité de ce type de modèle, c'est que le marché vampirise le reste, en fait. On est ici dans je vous prends un autre extrême, je fais un peu de terrain à Madagascar, dans une région où il y a très peu monétarisé, et où on est dans un modèle complètement différent, où vous avez aussi un peu de marché, un peu de redistribution et un peu de réciprocité, mais la réciprocité subordonne le reste, en fait. Si je prends le cas de l'Inde du Sud, où je travaille depuis deux décennies avec Venkata, on est sur un modèle où le marché commence à vampiriser le reste. Les gens essayent de résister de diverses manières, mais c'est pas facile. Et donc, on est ici sur un territoire où il y a quand même, me semble-t-il, un certain équilibre. Je pense que si on avait un indicateur de mesure des inégalités économiques dans le sud de Lozère, il serait quand même assez faible. Il n'y a pas de super riches comme ailleurs. Ça montre bien que d'autres économies sont possibles. Et donc, voilà, je m'éloigne complètement de l'apport au territoire, mais pour insister sur le fait que, encore une fois, je n'ai aucune idée de ce qu'on pourra apporter au territoire, mais ce qui est certain, c'est que ce territoire, et encore une fois, sans le romantiser, mais en décortiquant les conditions de possibilité de ce type d'économie, a beaucoup à apporter pour faire avancer nos imaginaires sur des horizons meilleurs.
Je fais juste une petite relance pour toi, Isabelle. Là, j'ai un peu l'impression que tu as l'air de dire que c'est presque comme deux directions très différentes de recherche, si on peut comparer avec Mémoire pour demain. Donc l'une qui est par les habitants, pour les habitants, dans le truc très à échelle locale et humaine. Et tu as l'air de dire que vous, c'est presque l'inverse. Vous venez ici aussi prendre en exemple cet endroit pour aussi l'amener ailleurs. Est-ce que tu as quand même la sensation qu'il y a une forme de complémentarité, j'imagine, et une forme aussi de collaboration possible entre les deux ?
Oui, bien sûr. J'ai insisté sur le deuxième aspect parce que c'est ce que je sais faire. Et parce que une recherche ancrée dans un territoire et pour un territoire, ça suppose une co-construction. Donc ça ne dépend pas de moi ni de nous. Ça dépend des collaborations qu'on arrivera à construire. Et peut-être plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que dans des entretiens qu'on a faits, et ça c'est une règle entre guillemets de la recherche qualitative, il y a cette question de l'éthique qui est centrale. C'est-à-dire que dès qu'on fait des entretiens avec des gens, l'idée c'est que l'entretien en lui-même soit porteur de quelque chose, qu'il y ait une réciprocité qui se crée, hein, parce que le chercheur dont c'est le travail prend du temps, en quelque sorte, à la personne qu'il va interroger. Et l'idée, c'est qu'il y a un dialogue qui se crée et qu'il y a une certaine forme de réciprocité, quelle qu'elle soit. Et voilà, je prends un exemple d'un entretien qu'on a fait hier avec une personne qui tenait à nous parler quand elle a entendu parler des restitutions. Elle nous a téléphoné. Elle a 90 ans, Cévennes, donc elle tenait à apporter son témoignage. Et à l'issue de l'entretien, elle nous a vraiment remercié très chaleureusement en disant « Mais dis donc, vous m'avez écouté avec tant d'attention. » Ça lui a remémoré tout un tas de souvenirs. Et là, il y a eu de la réciprocité. Le simple fait qu'on l'ait écouté, et la première base de la recherche, c'est cette écoute et le fait de, voilà, d'engager un dialogue dont nos interlocuteurs et interlocutrices vont ressortir de là avec voilà, le sentiment d'avoir été écoutés, d'avoir contribué à quelque chose. Ensuite, sur le deuxième aspect, nos collègues la Gina Auto, Roxane, Renata ont bien développé tout ce qui s'annonce dans les journées qui viennent. Et là, espérons, encore une fois, hein, les journées nous diront si ça a apporté quelque chose aux habitants, mais espérons que ce sera aussi un moment de réciprocité et où les personnes qui ont participé repartiront avec quelque chose. Et pour terminer, je dirais que effectivement, il ne s'agit pas d'opposer ces deux approches, mais d'insister davantage, comme tu le disais très bien, sur la complémentarité. Mais en insistant aussi sur le fait que ça suppose pas tout à fait les mêmes méthodes, pas tout à fait les mêmes dans le cas sur lequel j'insistais, ça suppose d'intervenir dans le débat public, pas seulement à Radio Bartas, mais espérons sur des antennes plus nationales. La question de Radio Bartas et d'autres formes de support plus nationaux montre bien la complémentarité qu'on peut avoir dans la contribution qu'on peut avoir au débat public.
Merci. On va parler un peu de la suite. Qu'est-ce que vous envisagez pour... Enfin, est-ce que vous voulez continuer cette recherche? Si oui, comment? Sous quelle forme? Avec quelle démarche? Quelle approche? Quel sujet vous intéresserait? Peut-être qu'on peut commencer par Monique, puis Blandine complétera, ou l'inverse, à vous de voir.
Je me lance, même si c'est très compliqué de passer après Isabelle Guérin, hein,
qui a
quasiment tout dit. Par rapport à cette temporalité qu'elle évoquait, et aussi pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Gina Auto, sur la notion de recherche-action, à court terme, à très court terme, on va voir aussi ce que ça donne, cette restitution et ces 3 jours d'échange à venir, là, avec des formats qu'on souhaite le plus collaboratif, participatif, interactif, non pas pour affirmer une posture de chercheur, mais vraiment parce que voilà, cette restitution, on rend la parole aux habitants qui nous ont livré un témoignage, ça nous semblait être la moindre des choses, et puis on est vraiment dans cette intention d'une coproduction. Donc on va voir ce que ça donne, c'est à la fois une validation et à la fois une poursuite de la recherche. Donc ça, c'est à très court terme. J'allais dire, la suite, elle appartient au territoire, en fait. Et on se rend compte aussi que on a tissé des liens, Mémoire de Demain, pourquoi pas envisager une collaboration, puisque leur travail est au plus proche du terrain, dans si j'ai bien compris, hein, mais une intention de passation de cette mémoire et à la fois de renouveau des engagements et des installations sur le territoire. Donc ça nous paraît tout à fait porteur. Puis on a fait du lien avec des tas d'associations. Je tiens vraiment à les... J'ai peur d'oublier du monde, mais à les mentionner, à les citer. Il y a Savoir en Chantier qui nous a ouvert à plusieurs reprises ses portes. Et on a d'ailleurs avec eux une action samedi 24, on sera samedi 24 mai, à partir de 18h à l'Encrier. On a croisé aussi, bien sûr, des associations, des organisations. On a cité tout à l'heure le Parc National des Cévennes, mais on va aussi travailler avec la Maison du Tourisme. La ville de Florac nous a aussi accueillis très gentiment en nous mettant à disposition la salle du tribunal qu'on occupera demain pour les ateliers du jeudi, donc après-midi. Donc voilà, on a déjà pas mal tissé, et avec la même humilité qu'évoquait tout à l'heure Isabelle, donner du sens. Dans la question de la vie bonne aussi, il y a cette dimension de donner du sens. Alors peut-être au travers... du retour qu'on va faire aux habitants, aux personnes qu'on a rencontrées, ben, pourquoi pas, on prétend pas apporter un sens supplémentaire, mais leur permettre de conscientiser un petit peu aussi ce qu'ils vivent, et puis comment on a pris du recul par rapport à ce témoignage qui était le témoignage d'une expérience de vie, en fait, hein, d'un parcours de vie. Donc voilà, donner du sens pour eux, et vous l'avez bien compris, donner du sens pour nous sur cette problématique de la vie bonne, de quoi elle se compose. Et là, c'est sur une temporalité, donc peut-être à plus long terme, voir comment, effectivement, comme l'a évoqué Isabelle, on peut embarquer nos observations pour, faites ici sur ce territoire bien particulier du sud de Lozère, voir si ça peut faire résonance avec d'autres territoires, voir comment, à partir de ces témoignages, peut-être on peut commencer à travailler sur ces questions de justice sociale, de nouveaux modèles démocratiques aussi qui tournent autour de cette question de la vie bonne. Donc il y a aussi cette possibilité qu'on n'a pas du tout envisagée. En fait, votre question, elle est difficile parce qu'on n'est pas dans une stratégie de recherche. Là, à très court terme, on vient déjà rendre à ce territoire ce qu'il nous a donné et avoir. Mais quand je dis ça appartient au territoire, bah, au travers des trois prochains jours, les témoignages qui vont continuer à nous arriver, et puis nos supports qui veulent très facile d'appropriation et qui, j'espère, vont déclencher peut-être d'autres discussions ou qui vont confirmer nos premières observations. Et puis, bien sûr, après, la volonté pour revenir à la recherche sur ce territoire, donner du sens ensemble. Et donc, c'est ce que disait tout à l'heure Jeanne Auto, la recherche à l'action qui est menée au Brésil, dont il témoignait. La coproduction en embarquant le plus largement possible. Et donc c'est aussi une sorte d'appel du pied que je fais à tous ceux qui se sentent intéressés par cette thématique, aussi parce que ce qu'on a observé, c'est que, bon, forcément c'était la question de départ, mais on nous a livré des expériences de vie bonne, des récits parfois très intimes, et que on l'a moins vu. Peut-être que c'était nos questions qui n'étaient pas adapté, qui n'interrogeait pas ça, mais on a moins vu peut-être la dimension collective. Il y a des tas d'initiatives, bien sûr, collectives, mais voilà, c'est parfois là où ça s'arrête. Cette vie bonne, il y a de l'entraide, mais elle peut être parfois ponctuelle. Et comment faire en sorte que peut-être sur ce territoire en particulier, et modestement par rapport à cette recherche, hein, puisque ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a, la question sur la vie bonne, elle est peut-être un peu nouvelle, mais il y a des tas de choses qui ont été faites sur le territoire, qui ont été voilà, dont on se sent pas de faire des résumés ici, mais le PETR, voilà, il y a des tas d'initiatives, et voilà, il faut qu'on croise absolument pour que l'impact, pas tellement le terme, mais voilà, la résonance que ça va trouver sur le territoire permettre cette co-construction et peut-être d'engager cette dimension plus collective, plus politique.
Juste avant de poursuivre avec la suite et de donner la parole à Blandine, j'ai envie de faire une petite parenthèse, Monique, avec toi.
Je t'en prie,
aimé. Tu as grandi ici, sur le territoire, toi aussi, et je me demandais, à titre plus personnel, toi, ton travail à l'Université de Nîmes et de Nîmes-Mende, et là, en particularité, ce projet, est-ce que tu pourrais nous dire un peu rapidement, je sais pas, ouais, plus personnellement, où est-ce que toi, ça te touche, et du coup, cette question de vie bonne, et du coup, cette... Pas très très clair. Mais...
Non, tout à fait. Ne t'inquiète pas, Aimé. Je vais me saisir de ta question, il n'y a pas de souci. Même si elle est un peu complexe. D'abord, dire que l'antenne universitaire, elle est rattachée à un établissement public expérimental qui s'appelle Nîmes Université et dont la volonté est vraiment de développer un enseignement supérieur et une recherche qui soit au plus proche du territoire. Donc là, on est un peu sur un axe Gard-Lozère, hein, mais ne vous fâchez pas, dans le Cévennes, voilà, c'est pas très très grave en soi. Et il y a quelques proximités. Voilà, cette PE, il a cette volonté de travailler avec le territoire, pour le territoire, en répondant à ses besoins. Et puis, la thématique de recherche qui est dominante à Nîmes Université, c'est les risques et la société. Donc, les risques d'inégalité, les risques démocratique qu'Isabelle évoquait rentre complètement dans ce champ de recherche. Après, moi, j'ai fait aussi le lien très rapidement avec un master qu'on propose à l'antenne de Mende, un master sur les transitions. Alors, c'est tourisme et transition, mais on essaye de former nos étudiants, enfin, on n'essaye pas, on y arrive, on forme nos étudiants à de nouvelles façon de penser le tourisme et à des modes alternatifs d'accueil, d'hospitalité. On est un peu moins sur les questions d'attractivité territoriale que de, d'hospitalité et de tourisme régénératif. Et donc, la manière aussi dont moi je me suis inscrite dans ce projet, c'est pour mes étudiants et faire le lien avec cette problématique de formation donc en transition. Transition, c'est un terme très large. Comment on fait ensemble, comment on fait territoire ensemble, comment on fait économie ensemble. Et donc, c'est forcément très inspirant. Il y a une proximité dans ce qu'on fait avec les étudiants à l'antenne universitaire de Mende et puis cette quête de la vie bonne. Et puis après, plus personnellement, ouais, moi j'ai grandi ici, j'en suis partie longtemps, puis je suis revenue plus récemment avec la volonté de m'y inscrire aussi professionnellement. Et quand tu es universitaire et que tu veux absolument revenir dans ton biotope parce que question de survie d'oxygène en fait, ça n'a pas été un parcours évident. Et ça m'était assez confortable de ne pas m'interroger sur le territoire auquel je suis attachée viscéralement, mais que j'ai choisi. Hein. C'est un territoire sur lequel je suis revenue après une longue expérience par ailleurs. C'est pas la posture la plus évidente en fait de mener une recherche sur ton propre lieu de vie avec des gens que tu peux croiser par ailleurs. Mais voilà, le collectif là pour le coup a été très très salutaire parce qu'il a permis de prendre la distance nécessaire. Mais bon, voilà, moi, ça bouleverse et ça touche beaucoup, beaucoup de choses voilà, très personnelles. Je ne vais pas m'étaler. Hein. Je vous épargne.
Merci.
Ouais, on comprend bien parce que c'est notre cas aussi.
peut-être, on en rediscute quand vous voulez.
Oui. Blandine, tu peux rebondir aussi sur cette question de la suite, de la recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Peut-être aussi, si Blandine, si je peux rebondir aussi sur le fait que aussi cette année de recherche, elle a fait émerger plein de questions. Et est-ce que vous sentez que c'est aussi ça peut être un tremplin pour de nouvelles questions, des nouvelles manières de les formuler, de nouvelles manières de les aborder?
Alors déjà, je vais aussi peut-être parler un peu de moi. Cette recherche, elle fait beaucoup de sens pour moi parce que d'une part, je pense que au début de ma carrière de chercheur, j'étais engagée dans des solutions ou des alternatives plus politiques et plus macro-politiques et macro-économiques. C'est peut-être ce qui m'a conduite à aller voir ce qui se passait à Cuba. Et au fur et à mesure, notamment par beaucoup de réflexions, par le fait que mes filles aient grandi, par mes relations avec les étudiants et les étudiantes, j'ai pris de plus en plus au sérieux en fait ces alternatives. Et c'est de là qu'est parti le projet dans la discussion avec Isabelle, de prendre très au sérieux des alternatives, des efforts de gens, des efforts que les gens faisaient pour mettre en œuvre concrètement un petit machin. Un petit machin, ça peut être leur vie, ça peut être un petit projet, ça peut être trois chèvres et deux fromages. Mais ce que Jean-Louis Laville appelait en fait le possibilisme, le fait de regarder sérieusement ce qui se fait, parce que ce qui se fait, c'est impossible à réaliser, ça ouvre d'énormes fenêtres en fait de réflexion. Donc pour moi, cette recherche, elle fait vraiment du sens. Elle fait du sens intimement, elle fait du sens en général pour ma vie, pour l'éthique de ma vie et de mes choix. Mais elle fait aussi du sens politiquement. Elle fait également, alors elle fera du sens si on arrive à construire un partenariat, on va dire local, mais je dis local pour dire qu'on ne va pas forcément aller avoir recours à l'Union européenne ou au grand schéma de recherche européen, mais plutôt engager des gens et des institutions et des organisations qui y voient du sens, quitte à bricoler aussi des sources de financement sans se mettre nous-mêmes à élever des chèvres et à faire des fromages. C'est aussi incorporer des étudiants et des étudiantes. Récemment, j'ai eu deux ou trois demandes d'accompagnement et en master de personnes qui souhaitaient faire des recherches sur ces sujets-là, sur le sentiment de justice ou d'injustice dans les collectifs, sur le rôle des associations dans la construction de la société locale en Cévennes et sur le rôle de l'État et des accompagnements. Donc en fait, quelque part, je suis mes étudiants et étudiantes et je me sens aussi énormément bouger et avancer avec eux et avec elles. C'est très important. Je voudrais juste dire un truc qui me semble très important aussi sur cette histoire de faire attention au possible. Pour moi, c'est vraiment nécessaire et important, sans avoir la prétention de porter dans le monde entier, mais de pouvoir, comme chercheur, avec donc une parole publique, qu'elle soit écrite ou orale, et un accompagnement, donc une responsabilité aussi, de prendre au sérieux ces formes de résistance, de prendre au sérieux le travail qu'elle implique, donc le travail de la relation qu'elle implique, l'entretien de relations avec le vivant, les humains, les non-humains, ses voisins, ses voisines, tout ce travail gratuit dont parle Isabelle, qui est souvent rendu invisible, mais qui construit finalement cette société. Pour moi, c'est vraiment une affaire sérieuse. C'est pas une affaire de quelques francs-tireurs ou quelques bifurqueurs, comme on peut les appeler de manière un peu légère, ou voire des marginaux. C'est une affaire vraiment politique qui remet en cause des enjeux démocratiques, des enjeux écologiques, qui représente une énorme énergie et qui permet aussi, à un niveau certes local, mais peut-être que le global ne s'ancre jamais que dans le local, de la même manière que le temps n'existe qu'au présent, puisque finalement la seule chose qu'on vit vraiment c'est le présent, qui est pour moi très important de reconnaître, ne serait-ce que pour avoir envie de vivre et retrouver de l'énergie, et cela m'en donne énormément, et ne pas se tomber dans la grisaille et le Tina, there is no alternative, dont on nous rebat les oreilles. Donc je pense qu'entre le libéralisme ou le néolibéralisme de marché globalisé qu'on voit poindre et se développer, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, et la centralisation extrêmement bureaucratique et autoritaire que je vois à Cuba, finalement, ces petits machins à l'échelle locale, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, sont peut-être des voies qui se présentent à nous, qui permettent aussi d'imaginer d'autres équilibres. Le local n'est pas un enfermement nécessairement, c'est pas trifouiller les sockets comme on a pu rigoler ou péter au schnock, c'est aussi une densité de fréquentation, de connaissances, d'interconnaissances, de reconnaissances, un ancrage. Prendre son temps n'est pas glander ou être oisif, mais c'est aussi chercher la qualité et le respect des humains, des non-humains, et permettre ce travail de la relation et finalement reconnaître les altérités. Et pour moi, c'est un enjeu politique énorme, puisqu'on est en train de plus en plus construire l'autre. Là, je lisais encore des articles dans les journaux ce matin, de construire l'autre comme un danger. Et donc, reconnaître les altérités ne remet pas en danger les identités, mais au contraire, les enrichit. Et je pense que à petite échelle, ce territoire que je ne connaissais pas, hein, je n'étais jamais venue vraiment à Florac avant de commencer cette recherche, elle permet de voir se refléter comme en fait le ciel se reflète dans une flaque d'eau ou dans une mare, toutes ces grandes utopies et ces enjeux énormes. Et pour moi, c'est ça qui fait vraiment du sens.
Merci Blandine pour d'avoir répondu à notre question. Peut-être pour terminer, à l'issue de cette recherche exploratoire, est-ce que vos questionnements autour de la recherche de la vie bonne ont évolué? Et si oui, dans quel sens? Peut-être Isabelle, tu peux répondre.
Oui, bah alors il y a différents types de recherches. On ne sait jamais ce qu'on va trouver quand on fait de la recherche, et c'est quand même une bonne nouvelle quand on trouve des choses. C'est pas toujours le cas. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. On en a déjà dit certaines. Peut-être deux choses. Le salariat. Le salariat. On pense tous que le salariat est la seule voie possible pour vivre. Déjà si on regarde à l'échelle de l'humanité et de l'histoire, on voit que c'est en fait une parenthèse extrêmement courte et limitée à un nombre extrêmement limité de pays, et on voit bien à quel point le système actuel est en train de détricoter le salariat de toutes parts. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'idée de travailleurs, travailleuses engagés polyressources ou multiressources, je me demande si l'avenir de nos sociétés n'est pas là-dedans. Et donc ça, j'avais pas imaginé que ça prendrait ces formes-là. Et là, je reviens sur, alors je me répète un peu, mais à quel point, quand on fait de la recherche, la question des marges est toujours instructive. On est sur un territoire qu'on pourrait qualifier de à la marge, et je crois qu'il est quand même très instructif pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et en particulier sur cette question, sur le fait de questionner le salariat et de montrer à quel point on a quand même une large partie de la population qui ne vit pas que du salariat ou qui vit à côté du salariat, et que ça pose plein de questions pour la suite. Et puis deuxième point peut-être, donc moi je suis économiste de formation et avec un regard constant, permanent, très critique sur la question des catégories statistiques qui formatent le monde. On a besoin de statistiques pour gérer des sociétés complexes. Il ne s'agit pas de critiquer la statistique, mais il s'agit d'avoir un regard distant, critique sur la manière dont les nombres soi-disant objectifs sont en fait, ne sont jamais objectifs. Ils sont toujours construits socialement, politiquement, ils reflètent des asymétries de pouvoir entre tel et tel groupe. Alors encore une fois, je ne sais pas vers où cette recherche nous mènera, mais moi, sur d'autres territoires et avec des collègues statisticiens, on a travaillé en faisant des allers-retours sur la manière dont des analyses très qualitatives questionnaient et remettaient en question des catégories statistiques et permettaient d'en créer de nouvelles. Bon, est-ce que tout ça prend du temps, hein, mais pourquoi pas imaginer dans quelques années cette question de catégorie travailleurs, travailleuses, engagés, multiresources, comme quelque chose qui ne serait pas marginal, mais qui serait susceptible d'être quantifié. Et l'autre point, alors ça c'est d'autres initiatives, Monique en a dit deux mots, mais il y a un foisonnement d'initiatives sur la question de fait de quantifier autrement la richesse d'un pays ou d'un territoire. La question, par exemple, l'indicateur de capacité relationnelle, l'indicateur de bonheur intérieur brut, il y a tout un tas de foisonnement d'initiatives qui existent et une suite aussi possible pourrait être de collaborer avec ce type d'équipe parce que là aussi comme disait Blandine, il me semble que la question des transitions, s'il y a bien une échelle qui est importante, c'est l'échelle territoriale et donc il me semble que pour la suite ça peut vraiment être quelque chose à creuser.
Je ne sais pas si Monique ou Blandine voulait ajouter un mot de vos points de vue.
Oui, moi j'ai tout appris sur la vie bonne, parce que, à vrai dire, ce n'était pas du tout dans mes objets de recherche. Moi, je suis, et notamment avec ce master transition dont je parlais tout à l'heure, là, je suis beaucoup sur les questions d'interaction au vivant et d'interaction à la nature, comment on peut accueillir des touristes pour leurs besoins récréatifs, et puis à la fois être respectueux des lieux et des personnes. Donc moi j'ai beaucoup appris au travers de cette recherche, et puis j'aurais envie de dire que finalement comme simple mortel, cette vie bonne elle se constitue de trajets de vie dans lesquels l'épanouissement avec l'environnement dans lequel on vit, et ça je pense que à l'heure où les problématiques écologiques nous poussent à penser différemment, je pense que c'est un thème qui est intéressant, bon, que j'étais venue chercher, hein, donc j'ai dit que je connaissais rien à la vie bonne, mais je m'interrogeais déjà sur ces questions, comment on habite un territoire en fait, quelle éthique et quelle solidarité au sein du territoire. Et donc, on a des résultats, ou des observations qui sont en cours, hein, de formalisation. Hein. Nous, c'est chemin faisant, hein, en fait, qu'on stabilise aussi notre compréhension de cette thématique de la vie bonne. Et puis, bien sûr, qui recouvre aussi la question des relations familiales, des relations intergénérationnelles, du temps qui passe, enfin, la vie, quoi.
Bonne conclusion. Merci. Donc, je crois que j'ai rien à rajouter.
Eh ben, on va doucement conclure. Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup. Moi, je voudrais, avant de conclure, vous dire merci encore. Et ajouter que je pense, de nos points de vue, c'est aussi très riche d'avoir eu cette discussion, mais avoir passé du temps avec vous, parce que je trouve que ça ressort vraiment dans ce que tu dis, Isabelle, les dimensions de toutes ces échelles qui s'entrecoupent. Et nous, on a grandi ici, et je pense que nos questionnements, ils sont partis de quelque chose de très petit, très essentiel, très sensible, humain. Et en fait, je pense qu'on a aussi tout à fait trouvé dans les sciences humaines plein de réponses à des questionnements très personnels. En même temps, nos questionnements très personnels viennent aussi nourrir tout, aussi plein de sujets politiques voilà, qui font écho un peu à tout ce que vous avez dit. Donc, ça fait plaisir.
Mais peut-être qu'on peut parler alors du projet de livre qu'on prépare.
Un peu sans transition. avant de conclure, on avait envie de vous parler de ce projet qui est un peu plus perso à nous deux.
Qui est à la fois lié au projet parce que c'est aussi en vous rencontrant que qu'on a eu l'impulsion aussi pour formuler cette envie et cette intention. Et en même temps, c'est un projet qui est personnel parce qu'il part de nos questionnements, de nos vécus, d'un rapport sensible qu'on a aussi à la Lozère, aux Cévennes. Et donc, c'est un livre qui, a priori, va parler de nos histoires familiales, de nos histoires d'enfance et d'adolescence en Cévennes. Et voilà, je sais pas si tu veux...
Ouais, bah juste dire que il est parti de, à la base, il est quand même parti de, d'une curiosité un peu de l'histoire des Cévennes avant qu'on soit là. C'est quand même beaucoup parti de l'envie de questionner les anciens, les anciennes. Donc on est parti de celles et ceux qui sont encore vivants, à savoir ça remonte à l'époque des premiers arrivants en fait néo et donc des derniers restants, des derniers du cru qui étaient là. Et donc voilà, ça partirait un peu de ce moment-là. Ça, voilà, comme un terreau un peu à nos histoires, un peu au pays dans lequel on est arrivé. Voilà, on en reparlera d'ici.
Ben moi, je dis que c'est fois. À suivre hein, cette aventure-là. Voilà. Et merci beaucoup,
Aimé
et Yaël, pour votre accompagnement sur ce temps radio là. Et puis je crois que nos collègues me font un signe, il y a quelqu'un, il y a plusieurs collègues qu'on pourrait associer et qu'on pourrait mentionner,
bien sûr.
Antoine Rieux aussi qui a pas pu être là cette semaine mais qui a beaucoup apporté aux différents ateliers là des trois prochains jours à notre réflexion de manière générale. Il y a d'autres qu'on pourrait citer, il y a Pierre-Paul aussi.
Pierre-Paul Zalliot qui a été là au départ mais qui, très pris par des engagements professionnels, n'a finalement pas pu poursuivre l'aventure. Et puis toute recherche suppose aussi des médiateurs, des médiatrices. On a eu donc Chantal Aymar, de l'Encrier, l'Université Populaire, qui nous a, comme tu le disais Monique, mais je le redis, nous a accompagnés depuis le début et a permis de faire en sorte qu'on ait plusieurs rencontres et plusieurs échanges, plusieurs temps d'échanges. Et puis ça nous a aussi ouvert sur tout un tas de contacts divers et variés.
Super.
Et puis, alors c'est, je suis peut-être mal placée, mais je vais quand même le faire. Un petit mot pour mon papa et ma maman. mais c'est vrai que, voilà, mes parents, donc Florence Hubert-Guérin, nous ont accueillis dans leur maison et ont été aussi des passeurs et des médiateurs, médiatrices, puisqu'ils nous ont mis en lien avec tout un tas de personnes. Ils sont aussi des mémoires locales, puisqu'ils sont arrivés ici dans les années 70. Donc voilà, un soutien matériel, intellectuel, de toutes sortes.
Relationnel.
Voilà.
Bien sûr. On peut faire peut-être un petit rappel du programme des prochains jours de cette restitution. Donc, dès demain, à 9h, vous pouvez nous retrouver au marché de Florac, sur un stand animé en présence du crieur de la Croix-Rousse, le représentant du ministère des Rapports Humains. De 14h à 17h, venez au tribunal de Florac pour assister à des ateliers participatifs sur les thèmes forts de notre recherche. Vous pouvez venir, le temps de présence est libre. À 18h et jusqu'à 20h à l'Encrier à Florac, vous pourrez assister à un atelier en mixité choisi sur... Enfin, participer plutôt à un atelier en mixité choisi sur le thème féminisme et vie queer en Cévennes, qui sera donc animé par Aimé et moi, ainsi que Magali. C'est un atelier qui est ouvert... qui est réservé aux femmes et aux personnes LGBTQIA+. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Vendredi 23 mai, on sera en déplacement sur le Cosméjean à partir de 14h, puis à Fraissinet à 14h, et à Fraissinet à 14h, ainsi qu'au relais de l'Espinasse à 17h30. Et samedi 24 mai, on sera en Cévennes, donc à Vébron à 10h et à Sainte-Croix-Vallée-Française à 14h. Et puis, on clôturera ces trois jours de restitution avec une conférence inversée en partant de vos questions, suivie d'une soirée festive À l'Ancrier à Florac, à partir de 18h et avec Savoir en chantier. Tout est gratuit et, vous pouvez, et sans inscription, donc venez comme vous voulez. Et,
comme vous êtes.
Et comme vous êtes. Et donc vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'informations, nous contacter, contacter Isabelle Guérin au 06 72 06 52 66. Merci d'avoir écouté cette émission.
Merci et... encore à Radio Bartas et à Léo à la technique. Et Radio Bartas de nous avoir laissé deux bonnes heures de discussion, c'était super.
Merci aussi à Ben de nous avoir beaucoup aidé sur cette émission. C'était la première fois qu'on animait une émission radio.
C'était super et ben voilà, sont passés à l'antenne Genauto, Venkata, Magali, Roxane et Renata qui était derrière la porte, mais qui était là. Et ici Blandine, Isabelle et Monique.
Merci à vous tous et toutes.
Qui a d'autres
merci. Merci. Au plaisir, on espère vous retrouver sur les marchés,
super.
Dans les lieux associatifs et de retrouvailles.
Et dans voilà. Vos villages.
Merci à vous aussi. Et vous êtes les bienvenus à la radio quand vous le désirez. Si vous voulez revenir, reproduire l'expérience,
super.
C'est quand vous le voulez.
En guise de transition, on vous laisse avec un copain d'ici qui fait du rap, qui s'appelle Relou et Gâté. Petite dédicace à lui et pour changer un peu d'ambiance. Merci.
Merci.
Pour changer.
C'est nous les gosses, c'est nous les petits nouveaux. On est venus au monde maintenant, faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous veulent. On a la niaque, on a des places à se faire. Peu importe la manière, si on y arrive, dans tous les cas ça se fête. C'est nos rires qui viennent briser vos silences. C'est sur nous qu'il faut miser, un potentiel qui reste immense. On est jeune, on est plein, on est beau et fort. Tant qu'on est plein, on est bien, on y met trop les formes. Les héritiers c'est nous, la culture c'est nous. L'espoir, la dernière chance, le futur c'est nous. Même la vérité c'est nous. Peu importe si on assure, notre chance on l'a mérité, c'est tout. C'est nous qu'on met les boomers dans la ville. Tout est sombre, tout est sobre, on vient mettre des couleurs dans ta vie. C'est nous les derniers dans la file, peu importe, c'est nous la chaleur. Nos bras dépassent au derrière de la foule. Chaque génération a ses problèmes, la pire c'est nous. On a tous une couleur, ceux qui font pas lire c'est nous. C'est de pire en pire, ceux qui continuent à rire c'est nous. Ils ont peur de l'avenir. L'avenir c'est nous. Chaque génération a ses problèmes, la pire c'est nous. On a tous une couleur, ceux qui font pas lire c'est nous. C'est de pire en pire, ceux qui continuent à rire c'est nous. Ils ont peur de l'avenir. L'avenir c'est nous. C'est nos pieds qui battent des culs, nos mains qui remettent des têtes en place. Nos dires qui résonnent dans les têtes comme un prof qui pète en classe. C'est nous les nouvelles technologies, on est des cyborgs. Tous les outils au bout des doigts, on crée nos possibles. C'est nous qu'on investit tous les étages. Même s'il n'y a pas la lumière, on casse les murs. Ça fera pour l'éclairage. On rêve plus de voler, c'est has-been. On veut la téléportation. Marre de scroller dans l'avion. C'est nous qu'on n'est pas là pour rigoler. Non je déconne, c'est nous les voitures dans le décor. On aime trop picoler. C'est pas à nous qu'on donne une heure en retard. On profite parce que c'est nous la joie, la bonne humeur. Ce monde est plein de murs, c'est nous la dynamite. Après ça sera nous les ponts. Et si ça marche, c'est que c'est nous les pompes. Y'a pas de seigneur, c'est nous la force. Les élèves de Bruce Lee, c'est nous la flotte. Chaque génération a ses problèmes, la pire c'est nous. On a tous une couleur, ceux qui font pas lire c'est nous. C'est de pire en pire, ceux qui continuent à rire c'est nous. Ils ont peur de l'avenir. L'avenir c'est nous. Chaque génération a ses problèmes, la pire c'est nous. On a tous une couleur, ceux qui font pas lire c'est nous. C'est de pire en pire, ceux qui continuent à rire c'est nous. Ils ont peur de l'avenir. L'avenir c'est nous. C'est nous qu'on reste debout, même quand il reste des places. C'est nous qu'on se bat pour conserver ce qui reste de nous. Le Mont Blanc et l'Everest font la bise. C'est nous, si la flamme s'est pas encore éteinte, c'est qu'on la tise. C'est nos larmes qui font monter l'océan. C'est notre ego qui sort sa bite pour la montrer aux géants. C'est nous qu'on fait la musique, c'est nous qu'on dessine les moutons. Les moutons c'est pas nous, qu'est-ce t'as cru bouffon. On est les pères et les merdes, demain est merde. Ils ont tout vu, on cherche ce qu'on pourrait encore faire de gueudin. On détale pas comme des antilopes. La terre se réchauffe, on va la mettre sous ventilo. C'est nous l'antidote, c'est nous le sens de la vie. C'est nous les bonnes raisons. C'est nos défaites, c'est nos victoires, c'est notre maison. Sans rancune, s'il faut qu'on rase le palais. C'est nous qu'on a notre mot à dire, c'est nous qu'on passe le balai. C'est nous qu'on est pas là pour rire.